Enguerrand de Marigny étreignit son fils, geste dont il n'était pas coutumier. Puis il se tourna vers Alain de Pareil qui entrait, l'empoigna par le bras et lui montra un siège devant la cheminée, lui dit « Chauffe-toi, Pareil !» Le capitaine général des archers avait des cheveux couleur d'acier, un visage durement marqué par le temps et la guerre, et ses yeux avaient tant vu de combats, de coups de force, d'émeutes, de tortures, d'exécutions, qu'il ne pouvait plus s'étonner de rien. Les pendus de Montfaucon lui étaient spectacle habituel. Dans la seule année en cours, il avait conduit le grand maître des Templiers au bûcher, conduit les frères Daunet à la roue, conduit les princesses royales en prison. Il commandait au corps des archers, aux sergents d'armes de toutes les forteresses. Le maintien de l'ordre dans le royaume était son affaire, ainsi que l'application des arrêts de justice répressives ou criminels. Marigny, qui ne tutoyait aucun membre de sa famille, tutoyait ce vieux compagnon, instrument exact sans défaut ni faiblesse du pouvoir d'État. « Deux missions pour toi, Pareil, » dit Marigny, « et qui relèvent toutes deux de l'inspection des forteresses. D'abord, je te demande de te rendre à Château-Gaillard afin de secouer l'âne qui en est gardien. Comment se nomme-t-il déjà ?»« Berzumet, Robert Berzumet. Tu diras donc à ce Berzumet qu'il se conforme mieux aux instructions reçues. J'ai su que Robert d'Artois était allé là-bas et qu'il avait eu accès auprès de Madame de Bourgogne. C'est en contrevenance aux ordres. La reine, pour autant qu'on puisse la dire telle, est condamnée au mur, c'est-à-dire au secret. Aucun sauf-conduit ne vaut pour l'approcher s'il ne porte mon sceau ou le tien. Seul le roi peut aller la visiter. Je vois petite chance que telle envie le prenne. Donc, ni ambassade, ni message. Et que l'âne sache bien que je lui fendrai les oreilles s'il n'obéit point. Que souhaites-tu, monseigneur, qu'il advienne de Madame Marguerite ? Interrogea Pareil. Rien, qu'elle vive. Elle me sert d'otage et je la veux garder, qu'on veille bien à sa sûreté, qu'on adoucisse au besoin sa chair et son logis s'il devenura sa santé. Deuxièmement, aussitôt que revenu de Château-Gaillard, tu piqueras sur le Midi, avec trois compagnies d'archers que tu iras installer dans le fort de Villeneuve, pour y renforcer notre garnison en face d'Avignon. Je te prie de bien montrer ton arrivée et de faire défiler tes archers 6 fois de suite devant la forteresse, de sorte que de l'autre rive, on puisse croire qu'ils sont 2000 à y pénétrer. C'est aux cardinaux que je destine cette parade de guerre, pour compléter le tour que je leur monte d'autre part. Cela fait, tu reviens au plus tôt. Ton service peut m'être grandement nécessaire ces temps-ci. Ou l'air qui souffle à l'environ ne nous plaît guère, n'est-ce pas, monseigneur ? Certes non. Adieu Pareil, je dicterai tes instructions. Marigny était plus calme. Les diverses pièces de son jeu commençaient à se disposer. Resté seul, il réfléchit un moment. Puis il entra dans la chambre des secrétaires. Des stalles de chêne sculptées couvraient les murs à mi-hauteur, ainsi que dans le cœur d'une église. Chaque stalle était équipée d'une tablette à écrire où pendaient des poids qui maintenaient les parchemins tendus, et de cornes fixées aux accoudoirs pour contenir les encres. Des lutrins tournants à 4 faces soutenaient registres et documents. 15 clercs travaillaient là, en silence. Marigny, au passage, paraffa et scella la lettre au roi Édouard. Et il gagna la salle suivante, où les légistes qu'il avait mandés se trouvaient réunis, et d'autres avec eux, tels Bourdonnais et Briançon, venus de leur propre chef aux nouvelles. « Messire, leur dit Enguerrand, on ne vous a pas fait l'honneur de vous convier au conseil de ce matin. Aussi allons-nous tenir entre nous un conseil fort étroit. Il n'y manquera que notre sire le roi Philippe, dit Raoul de Presles avec un sourire triste. Prions pour que son âme nous assiste, dit Geoffroy de Briançon. Et Nicole le Loquetier ajouta, lui ne doutait pas de nous. Siégeons, messire, dit Marigny. Et quand chacun fut assis, il me faut d'abord vous apprendre que la gestion du trésor vient de m'être ôtée et que le roi va commettre à viser les comptes. L'offense vous atteint en même temps que moi. Gardez-vous, messire, de vous indigner. Nous avons mieux à nous employer, car je désire présenter des comptes bien nets. Pour ce faire, il prit un temps et se renversa un peu sur son siège. Pour ce faire, répéta-t-il, vous voudrez donner ordre à tout prévôt et receveur des finances, en tout bailliage et sénéchaussée, de payer tout ce qu'on doit sur le champ. Qu'on règle les fournitures, les travaux en cours et tout ce qui a été commandé par la couronne, sans omettre ce qui regarde la maison de Navarre, qu'on paie partout, jusqu'à épuisement de l'or et même ce qui pouvait souffrir délai. et pour le solde, on fera l'état des dettes. »
Les légistes regardèrent Marigny, se regardèrent entre eux. Ils avaient compris. Et quelques-uns ne purent s'empêcher de sourire. Marigny fit craquer ses phalanges comme s'il cassait des noix.
« Monseigneur de Valois veut s'assurer main mise sur le trésor, » acheva-t-il. « Eh bien, il se retournera les ongles à le racler, et il lui faudra chercher ailleurs la monnaie de ses intrigues. »